Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes chers amis, ce mois d'octobre est propice à nous réjouir, car au milieu de situations inquiétantes, que cela soit les dérives éthiques touchant la filiation avec les projets de loi PMA-GPA et toutes les conséquences, et le synode sur l'Amazonie, où le pape François lui-même évoquait une situation de schisme possible, nous avons un mois qui est consacré à la fois au rosaire et aux saints anges. C'est une double force, mes amis, pour répondre avec courage face à ce que nous voulons transmettre aux générations futures. J'ose espérer que nous voulons transmettre la foi de nos pères basée sur la révélation d'un Dieu qui non seulement nous a transmis la vie, mais qui s'est également incarné pour vaincre de nos faiblesses sur le bois de la croix par son précieux sang versé pour notre rédemption. À travers l'histoire, la récitation du rosaire a été le signe de grandes victoires. Lépante en est un exemple, même si les Français ont brillé par leur absence, les Ottomans furent battus. Le rosaire, c'est aussi de belles fioretties, parfois étonnantes. Après une dizaine de chapelets, tout va mieux. Un prêtre de Fatima raconte une rencontre qui l'a vivement impressionné. Dans notre maison, où je m'occupe des hôtes de passage, j'ai remarqué un couple qui se rendait fréquemment à la chapelle des apparitions pour y réciter le rosaire. Or, ils n'assistaient jamais à la messe. Je leur demandais pourquoi. Ils répondirent : « Nous sommes protestants luthériens. Nous avons lu la Sainte Écriture, nous voulions méditer davantage les enseignements du Nouveau Testament. Par hasard, la brochure de Jean 23 sur le rosaire nous est tombée entre les mains. Nous y avons trouvé ce que nous cherchions. Maintenant, nous lisons tous les jours des textes de la Bible, mais nous méditons aussi les grands mystères de la vie de Jésus-Christ et tout particulièrement ceux du rosaire. Mais, le prêtre ajoute, vous pouvez les méditer sans le rosaire. Et la réponse, écoutez-la bien, sûrement. Mais avec le rosaire, c'est plus facile. La prière extérieure est un bâton de voyageur sur lequel on s'appuie lorsqu'on pénètre dans la région inconnue des mystères. Même entre nous, quand il y a des difficultés, après une dizaine de chapelets, tout va mieux. Notre dissension était minime en face des grands mystères de Dieu. Chaque Ave Maria détruit le mal. Dieu a concédé un pouvoir immense à Notre-Dame. Elle écrase sous ses pieds la tête du serpent, symbole des forces du mal. C'est pourquoi on dit qu'elle est terrible comme une armée rangée en bataille. Le pape Benoît XVI nous dit « Le rosaire contient en lui la force salvatrice du nom de Jésus. » Marie ne cesse de rassembler ses enfants pour ce combat. Dans chaque apparition mariale, elle nous montre le chapelet comme une arme puissante contre l'ennemi. Le chapelet est comme une épée. Jésus lui-même nous donne le chapelet comme arme. Monseigneur Olivier, évêque de Maïdigouri au Nigeria, raconte, et ce n'est pas vieux, le 18 avril 2016, j'étais en train de réciter le chapelet quand le Seigneur m'est apparu. Jésus m'a tendu une épée que j'ai saisie. Celle-ci s'est immédiatement transformée en un chapelet. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort nous dit « Le rosaire nous rend victorieux de tous nos ennemis. Alors prenons l'équipement du combat chaque jour et participons à la victoire du cœur immaculé de Marie. Chaque Ave Maria est une bénédiction pour détruire le mal. Nous avons là, mes amis, un trésor que nous pouvons utiliser sans modération et qui est fait pour accompagner chacune de nos actions. Avec Marie, nous ne sommes pas seuls. Elle veille sur nous deux. Oui, car nous ne sommes jamais seuls. Marie veille sur nous deux, car à côté de nous, il y a notre ange gardien, donné par Dieu pour être garant de notre salut. Marie, mère des hommes, Jean, voici ta mère, nous dit Jésus. Marie, reine des anges, comme nous le disons dans la litanie de Lorette, nous avons un trésor à nous d'en user sans avarice, car l'avarice asphyxie l'âme et paralyse notre action. Redécouvrir ou faire l'expérience sans cesse de la présence de notre ange gardien donne ou redonne une belle image de l'homme. Dans notre société, nous avançons à travers des lois mortifères sur la filiation, à considérer l'homme comme une marchandise où la loi du plus fort deviendra le label d'une nouvelle humanité. On parle aujourd'hui de l'homme augmenté, porte ouverte au transhumanisme. Mais y a-t-il un homme diminué qui n'aurait pas le droit de vivre? Si nous évoquons l'homme augmenté, il faut admettre qu'il y a l'homme diminué. Et sur le marché des valeurs, que vaut-il? Que rapporte-t-il? Est-il raisonnable qu'il vive? Le cas de Vincent Lambert en est un exemple. La société a laissé mourir un des siens. C'est finalement la conséquence du mythe de Prométhée. Dans l'Olympe, l'harmonie qui régnait jadis vacille. Zeus a détrôné son père, Cronos, et s'est emparé du pouvoir. Prométhée, le titan, et son frère Épiméthée se sont ralliés à Zeus, qui devient ainsi le dieu suprême de l'Olympe. Autrement dit, on a reproduit le péché des anges et de nos premiers parents qui ont voulu prendre la place de Dieu en le détrônant pour décider sans le Créateur qui on veut être. Comment on veut être? L'homme augmenté, est-ce cela que nous voulons transmettre à nos générations futures? J'ose espérer que nous le refusons. Nous le refusons car, pour nous catholiques, la vie est un don de Dieu et elle ne peut se réaliser que dans cette perspective d'une relation d'amour avec notre Créateur qui nous réalise pleinement. Créée à l'image et à la ressemblance de Dieu, chaque vie porte en soi un germe d'une histoire merveilleuse. Je pense à cette belle figure de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, mais aussi de Saint Padre Pio et de tant d'autres qui ont commencé à écrire l'histoire de leur vie lorsqu'il était de simples embryons portés et bercés dans le ventre de leur maman. Ils avaient déjà un ange gardien garant de leur salut, c'est-à-dire de la vie éternelle, et pour lequel nous devons prier. Comme je l'ai dit dimanche dernier, si nous prions pour l'ange gardien de chaque embryon, il y aura des miracles et des belles vies qui fleuriront. Comment ne pas faire nôtre les propos de Mgr Hayet, évêque de Bayonne et d'Oléron, dans sa lettre du 22 septembre sur la loi bioéthique, lorsqu'il dit « l'atteinte à la dignité de l'embryon, la distinction faite entre les embryons humains pour lesquels l'autorisation de l'expérimentation demeurerait encadrée et les cellules souches embryonnaires pour lesquelles l'autorisation serait libérée à des fins de recherche est fallacieuse. Chacun sait en effet que l'obtention de cellules souches embryonnaires nécessite la destruction des embryons, c'est-à-dire d'êtres humains vivants. Et cela s'appelle un meurtre. D'ailleurs, les diverses techniques de PMA ne font pas l'économie d'embryons action numéraire vouée à la destruction ou à l'expérimentation dès lors qu'il n'y a plus sur eux de projet parental. Et je ne parle pas des embryons génétiquement modifiés ou chimériques, dont l'autorisation est inscrite dans le projet de loi où l'on prévoit que des cellules d'embryons humains soient apportées à des embryons animaux. Qui ne serait pas horrifié par un tel projet ? Fin de citation. Oui, ce qui fait notre force, mes chers amis, c'est d'aimer la vie, jusqu'à soutenir le plus faible, car il est aimé de Dieu. C'est un combat, car le diable se déchaîne, et si nous le menons entouré sous la protection de la Vierge Marie et de notre ange gardien, l'amour triomphera. Le véritable amour, celui qui fait chanter la création et qui donnera à l'humanité encore beaucoup de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, de Saint Padre Pio, de Saint Maximilien Kolbe, de Saint François de Sales et de tant d'autres. Et pourquoi pas toi-même ? Pourquoi pas toi-même ? Pense-y, chrétien, pense-y, cher fidèle. Deviens saint et tu gagneras et tu rendras le monde beau. Sursum corda, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.